que je vais avoir l'honneur et le plaisir de vous raconter est la plus vieille et la plus belle histoire que nous connaissions.
Les textes illustres du Moyen-Âge avec Michel Pastoureau, épisode numéro 4, le roman de Renard.
Hommes, femmes, enfants, vieillards. Histoire que je vais avoir l'honneur et le plaisir de vous raconter. Les vaches la racontent le soir dans leurs étables à leurs petits veaux. Les lapins la disent dans leurs clairières. Les écureuils dans leurs branches. Les animaux sauvages dans leurs déserts.
Renard, on le sait, avance souvent dissimulé. Dès qu'il se cache derrière une haie, la voici qui devient buisson buissonnant. Le roman qu'ont composé en son nom trois générations d'auteurs, de part et d'autre de l'an 1200, est le produit de moult relectures, réécritures et innovations. Aux écoliers, on tente ou on tentait de proposer une version standard, qui édulcore parfois le texte, mais ne l'empêche pas de déborder d'un peu partout. Les érudits, quant à eux, tentent d'en faire l'exploration en les distinguant des branches. 1, 2, 17, 18, et puis un A, un B, etc., etc. Sur chaque branche poussent des surgeons en bien des langues, quand ce ne sont pas des adaptations. Walt Disney, dès les années 1930, en méditait une qui a fini par se croiser avec l'histoire de Robin des Bois. Et Goscinny et Uderzo songeaient à se servir du roman de Renard avant de finir par aller vers la Gaule. Surprenant Moyen-Âge.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Et intempérant, Michel Pastoureau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre guide tout au long de cette semaine. On connaît votre physique d'athlète de foire, mais c'est que vous êtes recordman du jury de thèse, direction de thèse, participation à des jurys.
Oui, ma dernière doctorante a soutenu sa thèse d'histoire culturelle de la noix et du noyer la semaine dernière.
De la noix et du noyer.
Voilà, c'est une histoire du monde végétal. Et c'était la 88e, si j'ai bien compté, en 37 ans d'enseignement supérieur et de direction de doctorant. Ça fait 2,5 par an, ça n'est pas tellement finalement. Mais c'est vrai que j'ai guidé beaucoup d'étudiants à l'école pratique des hautes études, à l'école des hautes études en sciences sociales, à l'école des chartes également. Et je me dirige vers une retraite paisible.
Oui, un âge avancé, une silhouette respectable. On sait tout ce que vous répétez à ce sujet, par exemple dans votre journal chromatique qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Le roman de Renard, je ne sais pas s'il fait l'objet de tant de publications savantes que cela, parce qu'il y a eu un grand, Jean Dufournet, qui n'a pas fermé toutes les issues, mais qui a dit beaucoup.
Oui, et avant lui, on a beaucoup écrit, beaucoup débattu aussi pour savoir si ses origines étaient allemandes ou françaises, si c'était le fruit de l'oralité, du génie populaire, satirique, se dressant contre les pouvoirs en place, ou au contraire, si c'était de la littérature savante, sortie des monastères, émanant des clercs, à partir de Lucien Foulet, c'est-à-dire du début du XXe siècle. C'est cette deuxième théorie qui l'emporte, c'est de la littérature savante. Je dirais même hyper savante. Il y a des avant-textes au roman de Renard. Ce sont des avant-textes en latin, parfois dans un latin difficile. Je ne crois pas beaucoup, moi, à l'oralité populaire et au génie du peuple dans ce domaine-là.
Bon, maintenant que vous avez bien établi le pédigré avec toutes ces références universitaires, je voudrais savoir si vous êtes un excellent naturaliste, parce qu'il vous arrive de fréquenter des colloques pour entendre les leçons des sciences de la vie. Qu'est-ce qu'on savait de Renard, mais de Renard en réalité, vous voyez, de l'animal au Moyen-Âge? Et est-ce que ce qu'on savait au Moyen-Âge correspond à ce qui peut se dire dans des colloques aujourd'hui où des naturalistes parlent des qualités ou des faiblesses de Renard?
On savait beaucoup de choses parce que dans le monde de la campagne, le renard fait partie de la vie quotidienne. C'est presque un animal domestique en ce sens qu'il vit autour de la domus, la maison, et c'est un grand habitué du poulailler. Donc on voit bien comment il se comporte. C'est d'abord un nocturne ou un semi-nocturne. Sa pupille lui permet de voir la nuit. Il avance non pas en ligne droite mais en zigzag. Ça a été noté très tôt. C'est un personnage qui se cache, qui avance sans faire de bruit, qui peut rester immobile pendant très longtemps, qui saute sur sa proie, qui lui brise les vertèbres au niveau de la nuque. Tout cela, on le sait, on le dit. Les auteurs de l'Antiquité l'ont déjà écrit, d'ailleurs, avant les auteurs du Moyen-Âge. Donc, ce qu'on appellerons, nous, l'histoire naturelle du renard est assez bien connue et laisse des traces dans l'histoire culturelle et dans les textes littéraires, bien sûr.
Parce que les naturalistes aujourd'hui nous disent que c'est une espèce très sociale, avec un grand pouvoir d'adaptation et d'apprentissage. Ils s'adaptent donc très vite à de nouvelles conditions de vie. Les adultes sont capables de transmettre aux jeunes de nouveaux comportements plus efficaces et ils sont extrêmement curieux.
Oui, ça c'est noté également. Le renard est curieux, le renard est observateur. Il passe un temps considérable à regarder, à observer. Je ne sais pas si au Moyen-Âge on sait qu'il s'adapte à peu près à tout, mais comme il a constamment faim, selon les saisons, il mange ceci ou cela. On sait au Moyen-Âge qu'il est omnivore. On n'emploie pas ce mot, mais on sait qu'il mange de tout. Il est carnivore, il est végétarien, il mange des charognes, etc. Aujourd'hui, d'ailleurs, le fait qu'il y ait des renards au cœur des grandes villes, 10 000, 20 000 à Londres peut-être. Moi, j'en ai vu dans le jardin du Luxembourg, il n'y a pas si longtemps. Ça prouve que le renard s'habitue à de modes de vie contemporains, surtout dans nos banlieues où il n'a aucun prédateur et nos poubelles, nos ordures lui fournissent de quoi se nourrir abondamment.
Enfin, moi, je trouve que ça prouve surtout vos capacités d'observation. Parce qu'un renard au Luxembourg, peu l'ont vu. Renard goupil. Alors, comment de goupil est-on passé à renard? Est-ce que c'est le fait de la stratification de ces trois générations d'auteurs qui empilent des textes?
Oui, la compilation de ce que nous appelons le roman de renard, c'est-à-dire d'un certain nombre de récits indépendants les uns des autres, mais mettant en scène toujours les mêmes personnages, a un tel succès que le nom propre de l'animal vedette de ce roman, renard, finit par devenir un nom commun. Renard, c'est un nom propre d'origine germanique. Reinhardt, Reginhardt, ça veut dire à peu près habile en conseil, fort à donner des conseils. C'est un nom propre, qui n'est pas si rare d'ailleurs encore au XIIe siècle, quand sont mises en forme les plus anciennes branches du roman. Et puis ce roman a un tel succès que le nom propre de l'animal va devenir peu à peu le nom commun, pas d'un coup, mais entre le XIIIe et le XVIIe siècle, est éliminé en français le nom commun normal, goupil, issu du latin vulpes. Vulpes d'ailleurs était un féminin en latin. Goupil est masculin en français, puis goupil se fait plus rare, plus précieux. Renard le remplace lentement, au point qu'au XIXe et XXe siècle, on peut écrire des livres du type « Les aventures de Maître Goupil ». Goupil devient un nom propre, alors que renard est devenu un nom commun. C'est un bon témoignage sur le succès inouï de ce texte littéraire.
Alors là, on est en aval. Si je vais avec vous, Michel Pastoureau, plus en amont sur les sources. Il y a des sources grecques, les fables d'Ésope sont connues.
Les fables d'Ésope sont connues au Moyen-Âge par des relais différents, notamment les fables de Phèdre, un auteur romain qui vit au 1er siècle de notre ère. Et on a des recueils de fables qui s'appellent des Isopées en langue vernaculaire au Moyen-Âge, donc empruntées au nom d'Ésope. Et la plus célèbre d'entre elles, peut-être la plus ancienne fable du monde occidental, Le corbeau et le renard, est à la fois chez Ésope et dans le roman de renard.
Un corbeau s'était perché sur un arbre pour manger un fromage qu'il tenait en son bec. Un renard qui l'aperçut fut tenté de lui enlever cette proie. Pour y réussir et pour amuser le corbeau, il commença à le louer de la beauté de son plumage. Le renard, voyant que le corbeau prenait goût à ses louanges, c'est grand dommage, poursuivit-il, que votre chant ne réponde pas à tant de rares qualités que vous avez. Le corbeau, voulant persuader au renard que son chant n'était pas désagréable, se mit à chanter et laissa tomber le fromage qu'il avait au bec. C'est ce que le renard attendait. Il s'en saisit incontinent et le mangea aux yeux du corbeau, qui demeura tout honteux de sa sottise.
Oui, cette fable, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, Ésope le dit déjà, La Fontaine le répétera, est assez méchante pour le corbeau qui passe pour un imbécile roulé par le renard, alors que dans d'autres textes, et très anciens parfois, le corbeau passe pour un animal extrêmement intelligent. Mais il a trouvé son maître ici, et dans le roman de renard, c'est un peu le cas d'autres animaux qui passent pour intelligents, forts, rusés, ont trouvé leur maître dans la personne de maître renard. Au fond, il n'y en a qu'un qui soit à son niveau dans le roman de renard, peut-être même un peu supérieur, et dont renard lui-même se méfie, c'est Tibère, le chat. Non pas un chat domestique comme nous les connaissons, mais probablement un chat sauvage. Ce Tibère est particulièrement malin et rusé.
Exemple,
il... Le roman de renard, c'est un roman de la faim. F-A-I-M. Tous ces animaux ont faim et luttent pour trouver de la nourriture, parfois s'associent, puis se volent, se roulent les uns les autres, et à plusieurs reprises, à propos de jambon, d'andouille, de poisson, Tibère, associé à renard, se montre plus malin que lui.
Et la bête par excellence, quand même, le diable, peut-être, c'est le loup.
Le loup Isengrin, qui est l'autre vedette du roman de renard, je crois que statistiquement il est aussi fréquent dans les 27 branches du roman que renard lui-même. L'essentiel des histoires, d'ailleurs, c'est la guerre continuelle qu'ils se font. Isengrin est un animal à la fois fort, cruel, ridicule, mal aimé non seulement de renard, bien sûr, mais de presque tous les autres animaux. Il est trompé par sa femme, la louve Hersan, qui commet une sorte de commerce charnel avec renard. Elle est plus ou moins consentante. Bref, le loup est ridiculisé par le roman de renard. On peut se poser deux questions. Est-ce que c'est pour évacuer la peur du loup que l'on aurait à cette époque, 12e, 13e siècle? Je n'y crois pas trop. Je crois qu'au contraire, on n'a pas tellement peur du loup dans les campagnes européennes à cette époque. On a peur du diable, on a peur du dragon, pas tellement du loup. La peur du loup, c'est une peur de l'époque moderne. L'histoire de la bête du Gévaudan se passe au 18e siècle, pas au 13e siècle. C'est un document, ça.
Un épisode du roman de renard, le roman de renard standard, tel qu'on le connaît jusque dans les écoles et tel que le dit ici Philippe Noiret.
Les heures passent, le froid se fait plus vif, l'eau en se gelant en serre le seau attaché à la queue et la selle dans la glace. Isengrin essaie de se soulever, de tirer le seau, rien à faire.
Que ce seau est lourd. Et renard, montre-toi, viens m'aider.
Mais renard reste quoi? Il attend que les heures du plus grand froid s'écoulent. La nuit est maintenant passée et Isengrin s'inquiète. Renard quitte son buisson et s'approche d'Isengrin.
Oh, messire, vous avez assez pris de poissons et il nous faut partir.
Ah, un renard, j'ai dû en prendre trop. Je ne puis plus tirer le seau de l'eau. Aide-moi.
Alors, renard, qui s'est une fois de plus moqué d'Isengrin, s'éloigne en disant.
Vous voilà pris au piège, messire, car vous avez été bien gourmand. Qui convoite trop, perd tout. Adieu, je vois déjà venir des chasseurs. Oh. S'ils ne vous tuent point, au moins vous trancheront-ils la queue d'un coup d'épée et lâcheront ensuite leur chien sur vous pour prendre un peu de distraction.
Ainsi se termine ce qu'Isengrin croyait être une partie de pêche dans un trou creusé dans la glace et ça devient une partie de chasse dont il est le victime.
Oui, il est victime, et il est victime de la méchanceté de Renard qu'il a attiré dans cette histoire, et il est victime des paysans, des chasseurs, des chiens qui approchent, qui vont lui couper la queue, le déchirer en différents endroits du corps, et parfois même le tondre. Ça n'est pas la seule histoire de cette nature, mais elle est révélatrice. Isengrin est naïf, et il fait confiance à Renard sur bien des points pour trouver de la nourriture. Tous les deux ont faim, et là, ce sont des poissons qu'ils sont visés, ça finit très mal pour Isengrin. Ça va se produire à différentes reprises dans la plupart des branches.
Mais nous sommes dans un paysage social et pas seulement dans un paysage naturel. Le domicile de Renard, c'est un terrier, mais c'est aussi un château, une motte féodale. Nous sommes dans la société féodale, nous sommes dans une société où le rôle des prêtres et des moines, très important à l'époque, est déterminant.
Oui, c'est ça qui est magique dans le roman de Renard. Les animaux sont à la fois des animaux, des individus avec leur propre personnalité, parenté, caractère, et puis des types humains, des archétypes, pourrait-on dire, qui parodient la société féodale, la société rurale. Nous sommes à la campagne. Le roman de Renard parle énormément de la campagne, qu'il décrit magnifiquement. Une campagne des 12e et 13e siècles, donc à l'époque féodale. Et les auteurs, bien sûr, parodient et critique cette société, la lutte entre les paysans et les petits nobles, les moines qui sont peu religieux, cupides, avares, jouisseurs.
Parce que quand l'animal frappe à la porte du cloître, on lui dit que pour entrer, il faut qu'il prévoit de faire acte de profession. Donc ça, par exemple, c'est une attaque directe.
Oui, c'est le cas d'Isengrin qui, pour bien manger, être bien nourri, accepte d'être tonsuré et d'entrer au monastère. La satire est assez violente contre...
Idem pour les curés de campagne.
Contre les curés de campagne qui sont mariés, qui sont adultères. C'est en train de changer dans la réalité sociale de la vie des campagnes. Mais dans le roman de Renard, la critique de l'Église en tant qu'institution et des gens d'Église est relativement forte, aussi bien les séculiers que les réguliers.
Et la dévotion est critiquée, passée au crible. Les pèlerinages peuvent être corrupteurs, les offices ennuyeux en diable, les miracles truqués.
Les miracles truqués, les parodies, les hypocrisies, les discours interminables dans un latin de cuisine, tout cela, bien sûr, passe à la moulinette de la parodie, puis de la satire, qui se fait de plus en plus violente. Au fil des décennies, les dernières branches n'ont pas, comme les premières, pour but de faire rire, simplement, mais vraiment de critiquer fortement.
Mais alors, je vois parmi les auteurs supposés, il y en a un qui fait Florès, prêtre de la croix en Brie. Les auteurs, ce sont pourtant des clercs.
Oui, bien sûr, et il ne peut pas en être autrement, parce qu'il faut que ce soit des personnages qui soient savants, qui sachent lire et écrire, qui aient lu des textes qui ont précédé les histoires de Renard et d'Isengrin. Donc ça ne peut être que des gens d'église qui pratiquent l'autodérision, qui se critiquent les uns les autres, mais nous savons que dans les monastères, c'est chose fréquente à cette époque, les querelles de moines, elles vont durer encore assez longtemps, et puis querelles entre les gens de monastères, les moines, et les gens de l'évêque, le monde de l'abbé et le monde de l'évêque, ce n'est pas le même monde au XIIe et XIIIe siècle, et on se déteste en général entre moines et clercs.
Mais ce sont ces auteurs qui prennent la défense des petits et qui disent que les petits peuvent prendre leur revanche.
Oui, nous sommes à la campagne, et alors il y a une proximité, soit entre moines très modestes, il y a différentes catégories de moines, ceux qui ne sont pas moines de cœur ne sont qu'auxiliaires et sont des souffre-douleurs. Des moines de cœur rejoignent les paysans qui souffrent, qui sont au service de telle ou telle abbaye, et ainsi de suite. Donc il y a déjà ce qu'on pourrait appeler, il ne faut pas faire de surlecture bien sûr, un peu la lutte des classes. Certains auteurs l'ont dit, avec peut-être exagération, mais il y a quand même des conflits comme cela de différents niveaux aux différentes classes de la société.
C'est un exercice de jubilation des désordres, et parmi ceux qui sont bousculés, il y a aussi les chevaliers. On a dit que c'était une sorte de renversement de la chanson de geste qui valorise les vertus des chevaliers.
Oui, il y a beaucoup de parodies quand ces personnages d'animaux font la guerre entre eux ou font la guerre à Renard, mettent le siège devant son château de Montpertuis, qui est à la fois terrier et château, et le lecteur n'est pas du tout gêné. C'est une parodie des chansons de geste, un peu des romans de chevalerie, avec une armée où chacun tient son rôle. Parmi les animaux, il y a le connétable, c'est Isengrin, il y a le sénéchal, il y a le chancelier, il y a le porte-étendard qui est le limaçon, il y a l'archiprêtre qui est Bernard, donc les grands officiers d'un seigneur, voire les grands officiers de la couronne sont ridiculisés par ces personnages qui ont un rôle dans l'armée du roi noble.
Alors, pour que cette société critiquée ne devienne pas un carnaval, il faut beaucoup attendre, peut-être, du roi de noble lion. Lion noble, plus exactement. J'ai parlé de carnaval, bon, on a dû, évidemment, vous passer mille fois dans les émissions auxquelles vous participez. Michel Pastoureau, le carnaval des animaux, Saint-Saëns. Claude Pieplu, je vois aussi le nom de Francis Blanche.
Ce soir, au Jardin des Plantes, c'est la grande fête éblouissante, le carnaval des animaux. Tout est prêt, la foule se masse. Soudain, vive le roi ! Et l'on voit la crinière en arrière entrer le lion. Très britannique, la mine altière, vêtu de soieries au ton chatoyant, soieries de lion, évidemment. Il est fort élégant, mais très timide aussi. À la moindre vétille, il rugit comme une jeune fille. « Peuple des animaux, écoute-le, tais-toi, laisse faire Saint-Saëns, la musique est ton roi. »
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Le roman de Renard aujourd'hui, c'est le nouvel épisode de notre série consacrée aux textes illustres du Moyen-Âge en compagnie de Michel Pastoureau. Alors, puisqu'on est chez le roi du roman de Renard, il habite lui aussi un château plus grand que celui de Renard, un palais, et il a une cour d'animaux avec des grands dignitaires, des grands barons, voire une ménagerie royale avec de vrais animaux qui dépendraient des seigneurs.
C'est ce qui est étonnant, quand ils partent à la guerre, ces animaux qui deviennent chevaliers chevauchent des chevaux. Donc on est à deux niveaux du côté du monde animal.
C'est des animaux d'animaux.
Animaux d'animaux, animaux au service d'autres animaux. Le roi noble, c'est le lion. La lionne, c'est sa femme, c'est la reine. Elle est fière, elle est capricieuse. Et puis il y a autour du couple royal des barons, des grands officiers de la couronne. Il y a le connétable, le sénéchal, le chancelier. L'archiprêtre.
Vous remarquerez que c'est souvent des grands herbivores.
Oui, peut-être qu'ils sont plus pacifiques. Tous ces personnages constituent une sorte de parodie d'un roi de type féodal. Nous sommes à une époque, fin 12e, début 13e siècle, où les rois, surtout le roi de France, sous Philippe Auguste, est en train de changer. On passe d'un roi qui doit prendre conseil, ce qui est encore le cas du lion dans le roman d'Honnard, vers un roi de type ancien régime, mais qui est déjà presque en place, un roi autoritaire, qui ne prend presque plus conseil et qui décide de lui-même.
Alors on va voir comment la procédure de l'appel au roi se déroule dans ce roman de Renard qui décrit une transition dans le pouvoir. D'abord le Vulgum Pecus va se transporter à la cour.
Cette fois, la mesure est pleine. Renard s'est montré tellement insupportable que tous les animaux de la forêt, tous ceux de la ferme à qui il a dans le passé joué des tours, décident de se plaindre au roi des animaux, noble le lion. À tout ce joli monde se sont joints les moines, les paysans, les fermiers du voisinage. Chanteclerc, grimpé sur la plus haute branche d'un pommier, harangue la foule.
Il faut, sans tarder, nous rendre à la cour de nobles. Le roi
Il lui demande de justice. Cette situation ne peut durer.
Allons, en route vers le château de Naples. Et que le roi dessus.
Alors, le roi, comment va-t-il régler les choses? Sa légitimité est-elle morale? Il ressemblerait au modèle traditionnel et pourrait donc rendre justice bien? Ou est-ce que sa légitimité tient de sa force?
On est dans un état d'entre-deux. Le roi est au sommet de la pyramide féodale et la société animale du roman de Renard, c'est une société féodale. Mais en même temps, c'est le roi des animaux, le plus fort des animaux. Donc il est craint et respecté par tout le monde. Et on s'adresse à lui à la fois pour être défendu, conseillé, protégé. Et quand on a une plainte à faire, on la fait auprès du roi, c'est ce qui se passe pour la plupart des animaux qui ont à se plaindre de Renard, et le roi noble va prendre une décision.
Et elle est respectée ?
Elle est respectée, c'est un roi, dans le roman de Renard, qui est peu contesté, même si parfois il apparaît comme un peu naïf ou trop bienveillant, il est quand même respecté de tous ceux qui l'entourent, qui ont un peu peur de lui et de ses colères.
Mais selon les branches, il y a combien de branches d'ailleurs?
27 branches.
Ah, j'avais compté 17, 18, mais on est jusqu'à 27.
Oui, jusqu'au milieu du 13e siècle, et puis après il y a des textes épigones qui changent un peu jusqu'au début du 14e siècle.
Mais selon les branches, le jugement qui va être appliqué à Renard est différent.
Oui, alors il va être plusieurs fois condamné. Il va être condamné au pèlerinage, il va être condamné à mort, et cette mort va être transformée en départ pour la croisade.
Ah bah tenez, voici cette version-là précisément.
Renard, arrêté pour tous les tours qu'il a joués, tous les brigandages auxquels il s'est livré, haï de presque toute la faune de ce monde, se voit condamné à mort. Il regarde autour de lui, n'aperçoit que des bourreaux. Il est captif de 100 chaînes. Alors il cherche le subterfuge qu'il sauvera du gibet, et soudain, sa souffrance l'inspire. Dans un râle, il tente sa suprême chance. À la gueule du lion, qui est le roi, il s'écrie « Encore un mot, sire, je songe à mes horribles péchés, mon cœur au repentir incline. Au nom de sainte pénitence, je veux prendre la croix. »
Alors, si je puis me permettre, Michel Pastoureau, il n'est pas condamné à prendre la croix dans cette version. C'est lui qui choisit de la prendre. Et c'est une ruse ultime ?
C'est une ruse ultime, oui. On n'est pas condamné à prendre la croix. On prend la croix, on assume, on est sincère en son cœur et en sa foi. Ça n'est pas le cas de Renard, qui va faire semblant de partir en croisade et très rapidement va envoyer promener la croix qu'il porte sur l'épaule, le bourdon et la panetière de celui qui est en marche vers les lieux saints.
De nouveau la satire de la croisade, la satire du pèlerinage, la satire de la dévotion.
Oui, la parodie, de fait, la croisade, à partir du début du XIIIe siècle, commence à être mal vue, mal supportée. On a des témoignages de villes qui se ferment devant les troupes de croisés pour ne pas les recevoir. Ce sont des personnages agités et un peu suspects. Il y a une dévalorisation de l'idée de la croisade, dont le roman de Renard donne un juste témoignage.
La rédaction du roman de Renard, si longue, accompagne la marche de l'histoire. Vous pouvez nous offrir, en finale, un bouquet de fins autres encore de Renard ?
Il y a la fuite. Renard s'enfuit, parfois aidé par d'autres animaux, notamment son cousin Grimbert, le blaireau, qui au fond est son seul ami et son avocat. C'est lui qui vient le défendre à la cour quand Renard ne se présente pas. En tout cas, c'est le seul qui soit vraiment de son côté, ce Grimbert. Le roman de Renard, d'ailleurs, c'est le premier témoignage de l'irruption du blaireau sur la scène littéraire européenne. Ça n'est pas rien.
L'évasion, mais moi je vous propose encore une autre fin possible.
Peuple, Renard est plus fort que vous tous, et je viens de conclure avec lui à l'instant un pacte de paix et d'amitié. Je désire qu'à l'avenir, vous obéissiez tous à Renard comme à moi-même, j'ai dit.
Merci à vous, Michel Pastoureau, vous présiderez encore demain au Conseil des animaux dans une autre tenue. Ce sera le dernier épisode. Cette série a été préparée par Martin Cellier avec l'aide de Frédéric Martin, la réalisation Stéphane Ronxin et la technique aujourd'hui Loïc Frappsource.